Salut tout le monde, ici Marco du podcast. Je vous parle aujourd'hui de notre annonceur La Fontaine Vin et Liqueur du Chum PL. PL, encore une fois, merci de ta confiance envers le podcast. On est très heureux de t'avoir parmi nous. Vin et golf, quel beau mariage, une super synergie. PL et sa gang de La Fontaine Vin et Liqueur ont présentement deux produits vedettes à la SAQ. De la maison Aubert et Mathieu, la gamme hors-piste. Donc c'est un genre de duo. On parle d'un Pinot Noir et également d'un Chardonnay de la magnifique région de Languedoc-Roussillon. Deux produits exceptionnels, très peu sucrés, tous les deux en bas de 2 grammes par litre. Aubert et Mathieu, la gamme hors-piste, un Pinot Noir et un Chardonnay. Goûtez-y, vous ne serez pas déçus.
Oh, 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 yes, sir. That's what I'm talking about.
Hitting bombs.
High, nasty, straight bombs. Oh, it landed 3 feet from the cup.
It did. It was pure. It was right on it. You did hit it a little too long.
That is salty.
Hello, friends. Rebienvenue dans un autre épisode du podcast. À la barre de l'épisode, à la co-barre, ça se dit ça, à la co-barre, Marco, comme à l'habitude, en compagnie de mon acolyte de toujours, qui maintenant s'achète des vêtements Grayson, là, il prend ça, ouais, des beaux petits linges Grayson Clotier. Nick, qui est à l'au bout de la pipe, salut Nick.
Team JT, man.
Pensais-tu que je m'en allais jaser dans un autre sujet, toi, ou...
Hey.
T'avais peur, là, hein?
Hey. Ouais, on a assez jasé de ma salle de bain, là, ça va être correct.
Ouais, mais là, parce qu'on a fait un podcast d'une heure sur la rénovation, tu sais, fait que c'est sûr que là, faut bien pas avoir de temps pour faire un podcast de golf. Si on fait un zoom, puis on parle une heure de d'autres choses que de golf, là, tu sais, c'est pas fort, notre affaire, là.
Puis, ouais, mon moral était déjà bas. Puis suivant la conversation,
d'un all-time low.
Wow. Je suis défaite. Je suis complètement défaite.
Ouais, mais à la place d'aller chercher une Michelob Ultra, t'aurais dû faire comme moi et aller chercher un peu de boisson forte, comme ils disent.
Ouais.
J'ai plus de glaçons, là, parce que j'avais des glaçons au début, mais c'est parce que ça fait un peu une heure qu'on jase, fait que mes glaçons ont tout fondu.
Mais c'est ça qui arrive, ouais. c'est que je commence à 7h30, puis là on fait un faux podcast, puis on fait l'autre podcast, j'en ai pour 2 heures, là. Ça, j'ai 3 scotch. Ouais, je vais commencer à faire un petit peu bonsoir.
Bon, ça serait pas ta première fois, là.
Non, c'est arrivé la semaine passée, ah, ouais. Puis je me suis dit, on va attendre un peu, là. J'étais à Toronto, la semaine passée. Puis,
OK.
On avait des old fashioned.
Oh, OK.
C'était bon, les old fashioned.
C'est bon, des old fashioned.
Il était rendu 10h30 ce soir. Bonjour. On travaille le lendemain, hein?
Ouais, ouais. Ben, travail, façon de parler, là.
Ouais. On n'est plus dans la trentaine. T'as même pas 30 ans, toi. Tu peux pas comprendre. Ben,
j'ai plus 20 ans, c'est ça qui est l'important.
Anyway, fait que...
Mais là, il va falloir que tu te robustises un petit peu plus, là, parce que moi, je connais des gars dans la soixantaine que ça s'enligne des double crown on the rock, ça arrose, ça route, puis il n'y a pas de problème. Là. Que, va falloir
ouais,
que
j'ai
tu...
pas...
C'était pas ta game, mon homme.
Ouais, mais là, je suis dans le confort des studios de Saint-Charles-Borromée.
De Joliette, fait que... excuse, non, oui.
Ouais, Joliette, non, pas Joliette.
Non, non.
Fait que j'y vais soft, là. On est quand même responsable. Il y a des enfants aussi dans la maison. Faut être responsable. Donc,
ouais.
C'est l'amicalo.
Non, non, je comprends très bien. C'est correct.
Toi, comment ils vont, tes enfants?
Moi, très bien. J'en ai pas. Fait que ils peuvent pas aller mieux. Écoute, en pleine santé.
Living the life.
On va se rendre là à un moment donné, hein, mais bon, c'est pas...
Comment est-ce qu'il va, Phil? Phil, il fait des commentaires.
Phil, j'ai aimé ça, son commentaire aujourd'hui.
Il n'y a pas tard.
Ben là, je sais pas si on parle du même commentaire, fait que vas-y donc en premier.
Non, toi, vas-y en premier.
Moi, je parle du commentaire qui a dit « Augusta, je suis très honoré de pouvoir aller jouer là. Il y a du monde là-bas que je vais voir, que ça fait longtemps que j'ai pas vu, qui sont des amis de longue date. J'ai bien hâte de les voir, puis j'ai bien hâte d'avoir la chance de jouer ce terrain de golf-là. That's it. »
Ah non, on parle pas du même.
OK.
Moi, je parlais du commentaire qui a fait que Liv Goff leur demandait aux joueurs comment ils pouvaient évoluer la game. Mais ça faisait 32 ans qu'il n'avait jamais été demandé ça. Dans le sens que la PGA demandait pas aux joueurs comment ils pouvaient faire évoluer la game quand ils étaient dans la PGA, mais quand ils étaient à Liv, ils sentent qu'il fait partie de ça.
Ah ben c'est ça, je suis pas surpris qu'ils disent ça non plus. Je sais pas si tu avais pogné. Il l'avait écrit sur Twitter, là. Okay. J'essaye de trouver ses replies, là, mais il avait été un peu... il avait été point out pour ça, là, parce que justement... regarde, tu vois, je vais aller te lire son tweet. Je l'ai retrouvé pendant que je te parle de ça, là. Mais au début du mois de mars, je pense que c'était dans le coin du Arnold Palmer, là, ou dans ses juste après ça ou quelque chose du genre. Phil avait tweeté que avant qu'il parte, il avait apporté au PGA Tour. Donc, il est allé voir, Sleepy J, Nick. Là. Il a dit, écoute, ça, c'est partenaires X, sont déjà partenaires du PGA Tour. Ils sont prêts à mettre $1 milliard, Nick, c'est bon, $1 milliard, ce partenaire-là, pour avoir 8 elevated events qui vont aussi permettre de donner de l'équité, donc des parts dans ces événements-là aux joueurs qui vont y participer. Et quelle a été la réplique de Jay Monahan, du moins selon Phil Mickelson? « I don't believe the league is going to happen, so we won't be doing that.
Ah, »
No
oui,
vote, no vote, no discussion. Puis il y a même Kyle Porter qui travaille, je pense, pour CBS, si je ne me trompe pas, qui avait comme quoté le tweet à Phil en mettant des espèces de gros yeux qui regardent. Là. Puis Phil avait même répondu à lui en lui disant « By all means, please ask Jay Monahan about this. J'aimerais beaucoup qu'il soit on record à propos de ça ou encore sur le official World Golf Ranking being tied to the TV deal » or anything else I've said. I have multiple layers of proof on all of it. Let's see how he chooses to respond, and I'm curious if anyone will even ask. Puis, of course, les Christie de médias vendus demanderont pas ça à Sleepy J, là. Ils sont un peu dans la même équipe, comme on l'a vu depuis le début pour ça, là. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, tu te rappelles, puis là, ben, on le voit, là. C'était dans la foulée des commentaires à Rory, là, tu sais, qui avait dit que l'émergence de Liv, ou l'émergence en tout cas d'un compétiteur, avait été bénéfique pour n'importe quel golfeur professionnel. Mais ça a été un tweet assez punché pour Phil. Fait que je ne suis pas surpris de l'entendre dire ça non plus, parce que c'est lui qui est passé au bat finalement, mais tous les bénéfices que les gars ramassent là, c'est à quelque part à cause de lui. Là. Parce que même s'il ne fait pas ces commentaires-là, Nick, mettons, on oublie l'espèce de semi-saga montée de toutes pièces. S'il ne fait pas ces commentaires-là, mais il va à Liv pareil, ben la Ligue, elle peut prendre son envol. C'est comme Phil qui a été d'un premier et qui a permis à Patente de partir. Parce que s'il n'y a pas de Phil, y a-tu un DJ? S'il n'y a pas de DJ, y a-tu... À un moment donné, c'est l'effet d'entraînement aussi là, de... Tu sais, Liv London, là, il n'y avait pas tant de gros noms, là. Mais c'est dans la foulée, puis des gros noms qui se sont rajoutés, tu sais. Fait que je ne suis pas surpris de l'entendre dire ça, mais...
moi, fait le commentaire... la réponse de la PGA, c'est de faire exactement la même chose que Liv Tour font. En 2024.
En pire.
Comment en pire?
Ben... Moi, je pense que les Elevated Events, la preuve, c'est que Phil l'avait apporté, là, du moins selon lui. Donc, les Elevated Events, Nick, je suis 100% pour ça. Je pense que c'est une bonne idée. Mais à mon avis, s'il avait voulu répliquer Live, ou s'il avait voulu améliorer la ligue ou copier, OK, tu veux faire des Elevated Events avec juste des top joueurs. À la limite, tu veux faire un Limited Field, OK. Pourquoi No Cut Event? Chris, c'est quoi le but? Moi, je comprends. Ouais, l'histoire de No Cut, j'ai pas compris.
C'est pour ça que je t'ai demandé pourquoi pire. C'est la même affaire. C'est
ben, pire parce qu'ils font la même affaire que, à mon avis, c'est une des affaires qui est probablement pas correcte, entre guillemets. C'est pour ça que je te dis pire. Parce qu'à mon avis, c'est un côté négatif de Liv versus quelque chose qui pourrait peut-être, il aurait pu améliorer ce point-là. Dire, on va faire des événements, limited field, il y a juste 100 joueurs ou il y a juste 75 joueurs, mais il y a une cote pareille. Là, puis même si tu en coupes juste 20, ça fait partie de la... Hey, tu as payé Netflix pour faire une série
laquelle... On a juste parlé de la cote.
puis Amanda Balionis, puis toutes les christites journalistes qui sont dans la série, ils répètent à peu près 12 fois chaque. Ah, au golf, c'est différent. Il y a une coupure après le vendredi. Si tu fais pas la coupure, t'es pas payé.
You do not collect the paycheck.
Ben oui, c'est quoi, là, votre histoire? Tu sais, fait que ça, je trouve
très
ça un
bon,
peu...
Très bon lien. Très, très bon lien. Mais tu sais, on s'entend que c'est de... On avait perdu les WGC, qui étaient les no-cut events, qui amenaient un aspect plus mondial, là, je dirais. Mais il n'y a rien de plus plate qu'un no-cut event. Tu sais, c'est... Quand tu regardes... Mettons, quand tu commences à l'écouter le matin, tu sais que les gars qui commencent le matin... Puis je dis pas qu'avec un cut event, les gars vont être capables de remonter. Mais il manque de quoi? Des no-cut events, c'est plate. Comme... Ouais. C'est plate. Puis je comprends pas avec le succès qu'ils ont depuis le début de l'année, puis on va parler un peu de la Honda Classic, qui a été un des meilleurs tournois de l'année, malgré qu'il y avait juste Sung Jim comme nom connu au tournoi. Oh, Billy Horschel, ton chummy Billy Horschel. Mais comme de quoi, les Elevated Events ont leur place, les Non-Elevated Events ont leur place aussi. Puis on est capable de naviguer à travers ça. Puis c'est comme une espèce de Corn Ferry Tour à l'intérieur de la PGA où tu essaies de te qualifier pour les Elevated Events comme Bale ou Kurt Kitayama est allé gagner. Ben c'est ça que ça fait, cette espèce de mélange-là. Super le fun. Mais là, tu t'en vas faire des no-cut events, 8 avec 78 joueurs, 70-78 joueurs, no-cut events. Ça réduit le bassin de joueurs possible. Ça réduit la possibilité d'avoir des histoires comme Kurt Kitayama qui a gagné à Bale. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Il y avait une bonne recette. Quitte à avoir un field de 100 joueurs, tu fais une coupure à 50. Je pense que ça, comme on dit, kill two birds with one stone. Tu peux avoir un petit peu plus de gars qui arrivent de l'outside. Plus tu as une coupure, tu rends ça plus intéressant. Le samedi, dimanche, c'est encore beaucoup plus relevant. Tu peux, pour le télécast, ça peut être beaucoup plus intéressant aussi. C'est plus court. Ça coûte moins cher à couvrir. En tout cas, il y a plein d'affaires qui auraient pu être possibles sans avoir ça. Je trouve que ça a été vraiment la pire idée là, de faire ça comme ça. Puis c'est de pas écouter les puristes, les gars qui ont des idées, je comprends juste pas. Tu pourrais peut-être m'éclairer pourquoi ils ont choisi d'y aller de la sorte avec ces 8 événements-là.
Ben, je peux pas t'expliquer pourquoi, je suis pas dans le secret des dieux, mais pour moi, il y a deux choses sur ce que tu viens de dire. La première chose étant que, par rapport à la coupure, ce qui est le fun d'avoir la coupure, c'est que tu as un tournoi dans le tournoi. Tu sais, c'est... Le vendredi, il n'y a personne qui part avec le trophée, mais t'as quand même des affaires où ce que tu peux montrer des gars qui filment puis dire « Oh, lui, il faut qu'il fasse un bird ou faut qu'il fasse te cale ce pote-là pour faire la cote. » Puis si puis ça, t'as une game dans la game. C'était ça, c'est la précision. L'autre point par rapport à ta question, savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ils ont fait ça. Moi, je trouve ça désolant à dire, mais je pense que... Puis, écoute, est-ce que les autres ligues, c'est comme ça? D'une certaine façon, probablement. Mais ce qu'on constate, Nick, c'est que le PGA Tour va avant tout vouloir faire plaisir aux joueurs et faire plaisir aux partenaires. Et quand je dis faire plaisir aux partenaires, je ne suis pas sûr que c'est nécessairement ce qui est le mieux pour le partenaire, mais je pense qu'il essaye... Finalement, c'est pas l'amateur de golf qui fait en sorte que le partenaire va faire de l'argent parce qu'il va acheter de la pub, puis on va acheter sa bière, puis on va acheter ses chars, puis on va acheter ses assurances, puis on va acheter tout ça.
Ses tracteurs à gazon.
Ses tracteurs à gazon. Ben finalement, ce partenaire-là, la raison pour laquelle moi, je vais aller acheter son Esti John Deere, c'est parce qu'il y a un bon produit, parce que je vais aller au tournoi. Le fan, il n'est pas considéré, Nick. Le fan comme nous autres, ou le fan qui est même moins fan que nous autres, il n'est pas considéré. Puis c'est la plus grosse différence que je vous avais parlé quand j'avais été au tournoi de Liv. C'est que si tu es un fan le moindrement de golf, tu peux aller là pour une journée, pour regarder une shot de golf, tu as eu du fun pareil. Puis ce que je déteste avec ça, Nick, c'est pas... Tu sais, la stifie de bullshit de dire « Ah oui, mais... ça va être mieux pour les sponsors parce que si t'as Rory McIlroy, tu vas être sûr de l'avoir pendant 4 rondes. » Ouais, mais Rory McIlroy, là, si cette semaine-là, il est 5 over après 2 rondes, puis le dimanche, c'est sa dernière ronde, puis il est T72.
Personne
qui
va le voir.
Il est off à 7h51 le matin. Il y a personne qui va le voir.
Il y a personne sur le terrain le dimanche matin.
T'es tellement mal setupé pour tes affaires de TV qu'il n'y aura pas de couverture de télé de toute façon. Fait que finalement, Rory McIlroy, le samedi soir, il va probablement partir sur une brosse, faire un peu de party, parce qu'il sait que de toute façon, il est en dehors du tournoi, il va finir dernier. Puis le lendemain, il n'y aura personne là, il va jouer sa ronde en 4 heures. Merci, bonsoir, c'est réglé, pack ses petits, s'en va chez eux.
Parce que la plupart arrivent vers le 11h midi pour... T'sais, sinon, une année, il y a 10 heures sur un terrain de golf pour la plupart. C'est long, là. Il arrive pas, ben le oui. Monde n'arrive pas à 7h30, à part peut-être toi puis moi.
Mais non, mais c'est tellement stupide. C'est de dire, ah oui, mais tes stars, ils vont être là pour 4 jours. Ouais, mais si tes stars, c'est vraiment tes stars, ils vont être là pour 4 jours no matter what.
Mm-hmm.
Puis si ta star, cette journée-là, elle manque la cote, comme ça a été le cas, entre autres, aux Players, Rory, entre autres, qui a manqué la cote, ben, so be it, mais je veux dire, c'est pas vrai que le gars, il est T81, puis il va jouer. Tu sais, c'est quoi le... Ben oui, je comprends, il y a des joueurs qui attirent plus de foule que d'autres, mais tu sais, si tu vas, j'étais à la Honda Classic l'année passée, ou je pense que c'était il y a 2 ans, c'est sûr que Phil, il y a bien du monde qui suivait Phil, mais par rapport au global de la patente, c'est très peu, on parle d'une couple de centaines de personnes. La réalité, c'est que les estrades du 17 puis les estrades du 15 sont pleines à 4 heures l'après-midi, pas à 9 heures le matin. Là.
Mm-hmm.
Tu sais, fait que c'est complètement... C'est detrimental pour for a lack of a better word, là, mais tu sais, c'est... À mon avis, c'est complètement à l'opposé de ce que le fan veut puis finalement, ce qui est le gars qui amène de l'argent. Là. Oui, c'est les partenaires. Moi, je comprends. Les partenaires, ils achètent parce que le golf est regardé puis parce qu'il y a du monde qui paye le billet. T'sais, fait que c'est... J'ai pas compris la décision. J'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe, Nick, sérieusement. Là. Parce que je comprends là, que, oui, regarde, tu l'as dit, il avait fait des ajustements qui étaient nécessaires, puis il était dans une bonne situation. Écoute, le début de saison du PGA Tour, Nick, là, c'est pas parce qu'on est... Les deux, on est des vendus, c'est sûr. Mais c'est pas parce qu'on est des vendus qu'on peut dire objectivement que c'était un méchant début de saison. Là. Tu sais, John Ram qui gagne 2 fois au mois de janvier. Max Homa qui ramasse le Farmers.
C'est des stars qui ramassent.
Tu sais, Scotty qui ramasse le Waste Management. John Ram qui regagne au Genesis. Puis là, t'as Kurt Kitayama. Ah oui, c'est pas une star. Non, mais il y avait toutes les stars dans le cul. Ça a été un méchant finish.
C'est
le par 3 qui a le son bird. Tu sais, je veux dire, ça a été... à date, là, c'est un excellent début de saison. Puis là, oui, en fin de semaine, Scotty Scheffler qui... ça rend ça peut-être moins excitant quand il y a une domination aussi, aussi totale, mais je veux dire, au final, ça reste que le gars est... Tu sais, ça prouve que tu dis, OK, il est solide, là, lui-là. Là. Quand il est dialed in, hey, il rentre en plein, m'a dit rien à faire. Hey, t'as-tu vu son menu du Master? Je passe
ouais.
du coq à l'âme.
Oui, oui.
Mais Scotty is a man of the people. Hey,
yes.
Quand tu des burger sliders en entrée, là.
C'est un gars qui marche pour aller chercher son café quand même. Là.
Ouais, puis il en prend pas quand il est au. Quand il est sur la route, hein. Ben oui, ouais, c'est ça. Fait que bref,
mais
c'était notre petit segment.
Pour ton point sur pour ton point sur Rory, puis c'est quoi qui était le plus fun en fin de semaine? De voir Rory piocher de deux. Il y a Jordan Spieth, beaucoup trop de coverage, là, tant qu'à moi. Il faisait partie du. Ben, c'est peut-être mon problème parce que j'ai écouté les deux marquee group avec Max Homa, Justin Thomas puis Jordan Spieth. Fait que je les ai vus les deux jours. Mais après ça, il y avait de l'extra coverage. Il faisait partie des featured group le samedi puis le dimanche. Fait qu'il y a beaucoup trop de coverage pour Jordan Spieth pour qu'est-ce qu'il a, pour où il a terminé. Mais tant qu'à moi, qu'est-ce que j'ai adoré voir en fin de semaine? Ben, on le savait qu'il s'en venait. On savait qu'il était là. C'est un gars qui était sur le Eurotour, qui a une sœur qui est en train de détruire la LPGA, qui est extrêmement, peut-être pas détruire, là, mais extrêmement forte dans la LPGA. Mais Min Woo Lee, en fin de semaine, de finalement le voir en action pendant 36 trous, de le voir whipper la balle comme il whip la balle avec sa stature, sa personnalité un peu goofy au 17e trou. Tu voyais l'attitude, tu voyais le mindset qui était « OK, regarde, c'était pas mon temps, mais je faisais du fun quand même, saluait la foule, avait une belle attitude. Moi, pour moi, c'est ça mon highlight du Players. Peu importe que Scotty Scheffler ait gagné par 5 shots, 6 shots, le highlight en fin de semaine, c'est de voir une nouvelle star dans la PGA arriver, puis encore une fois, au détriment de la DP Tour. Encore une fois, la DP Tour vient de perdre un gros joueur. Il a joué dans le DP Tour pendant, je pense, une année ou deux. Ben, ils viennent de perdre une star parce que Min Woo Lee au Players est devenu une star de la PGA. Puis, on parle de Live Golf, puis de perdre beaucoup de joueurs, puis je comprends le narratif, je comprends le Sergio, le DJ, Joachim Niemann, c'est plus dur, Cam Smith, effectivement, c'est des jeunes joueurs, mais ces gars-là, il y en a d'autres qui vont arriver, puis t'as un Min Woo Lee qui vient d'arriver en fin de semaine, puis la semaine prochaine, ça va peut-être t'as un Ben Griffin, qui est un gars sur TikTok, qui connaît une stretch, qui vendait des assurances l'année passée, ou v'là 2 ans, il y a une belle histoire. On a
des mortgages.
Ouais, des mortgages. Il y a une belle histoire. il avait arrêté de jouer au golf. Puis là, présent, le samedi, dimanche, il est dans le haut du classement. Puis ces histoires-là, ben, ça l'aide le télécast à vendre le produit. Fait que t'as un Ben Griffin, un Min Woo Lee qui arrive. Il y a une histoire, il y a des personnalités. Ça te fait oublier les Joachim Niemann, ça te fait oublier les détestables comme Patrick Reed assez rapidement si tu es capable de bien le vendre.
Ah, c'est clair. Ben oui, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, t'en as là, des produits. Tu sais, j'écoutais Akshay Bhatia avec les gars de Subpar. Là. Le gars, il a ramassé son Special Temporary Membership, va être là au Valspar. Tu sais, le gars est une vedette montante en lui-même. Tu sais, t'as juste à le laisser. T'sais, c'est un gars, il est charismatique, sourit tout le temps. T'sais, t'en as du monde de même. T'en as.
Mm-hmm.
Chris, Eric Cole.
Ouais.
T'sais, là, t'as l'histoire d'Eric Cole qui a eu sa carte de peine et de misère cette année. Hey, je l'ai vu, Nick Simonac. Il était à. J'aurais pu y mettre la main sur l'épaule. Puis il était sur le bord de la corde. Ça, c'était le samedi. Puis jasait que c'est chum après qu'il ait frappé sur le bord de la corde. Hey, les boys, ça va, nanana. C'est du monde qui connaissait qui était là. Un gars terre à terre au bout. C'est une belle histoire.
Ouais.
Tu sais, t'en as des histoires de même. Des Ryan Gerard, que là, ramasse un autre sponsor. Ben, ramasse une sponsor exemption. Je pense qu'il a besoin d'un T54 ou mieux, puis il ramasse un special temporary membership lui aussi.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un gars qui sort de nulle part un peu. Tu sais, t'en as du contenu, t'en as. C'est juste de savoir qu'est-ce que tu vas faire avec.
Pearson Cooley.
Ouais, les deux frères même. Tu sais, à Honda Classic, les deux frères étaient là, de mémoire. Là.
Mais Pearson, qui a bien performé, ouais, mais après ça, il y a
Parker
il y a
qui a manqué à la cote, hein, je pense.
Ouais, mais après, ouais. Encore de ça, après ça, il est allé jouer à Bale. Il s'est qualifié pour Bale, puis il a encore eu une bonne performance. Je pense qu'il a fait la cote sur le nose, ou ça, c'est au Honda Classic. Je me souviens pas. Mais anyway, il a joué deux tournois Elevated back-to-back. Joue en fin de semaine. Je l'ai pris dans mon DraftKings, Pearson Cooley, je pense. Joue en fin de semaine au API. Donc, ça, c'est un gars qui jouait... l'année passée, il jouait NCA. Là. Fait que c'est des histoires. Tu sais, ça fait pas longtemps. Là. L'année passée, dans l'école. Fallait qu'il fasse ses devoirs. C'est la leçon. Ouais. Anyway.
Ouais. Yeah.
Fait que,
ouais.
Tu sais, les 48 joueurs... Tu sais, d'un autre côté, tu penses à... Il y en a des... Je pense qu'on pense à Cam Smith qui est parti, puis c'est effectivement c'est un gros loss. Mais tu penses aux personnalités, aux personnages qui sont partis pour Live Golf. Paul Casey, Dustin Johnson, Patrick Reed, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, tout du monde détestable. Toutes des primadonnas de la première. Puis là, t'as des gars qui se sont battus toute leur vie. T'en as un gars qui vendait des mortgages là 2 ans. Ils sont sur la PG. Il fait des TikTok. Nous amène à l'intérieur. Il est super bon, Ben Griffin. Ça, il fait des TikTok. Il est tout le temps souriant, man.
Des TikTok. Il commence tous ses TikTok en disant bonjour tout le monde. Non.
Bonjour. Okay. Bonjour tout le monde.
Excuse. Je ne vais pas te débranger d'attendre.
Et bonjour tout le monde. On va faire un podcast aujourd'hui, Marco Grosloup, là. Vous travaillez pour Tabco, vous autres, monsieur.
Oui, c'est ça, oui.
Anyway.
Oui.
Tu sais, des fois, dans la vie, c'est un petit peu plus philosophique. T'as peur du changement, t'es confortable avec qu'est-ce que t'as, puis je pense que le monde était confortable avec les joueurs qu'il y avait, puis il était habitué à ça, puis de revoir, puis ça a créé un espèce de confort, puis des fois partir vers une autre ligue, c'est comme la PGA sera plus la même parce que ces joueurs-là sont partis. Mais on voit que malgré ces lacunes, que le tour est plus gros que ces joueurs-là. La ligue va trouver des joueurs pour remplir ces gars-là. T'sais, l'histoire de Kurt Kitayama. Kurt Kitayama, c'était le 6e, 7e joueur dans son équipe de NCA.
Oui.
Il l'appelait le Project.
Ben oui.
Parce qu'il était pas bon au golf. Il devait jouer quoi?
C'est le pire de son équipe.
C'est le pire de son équipe. Puis là, il l'a appelé le Project. Ce gars-là a gagné un des plus gros tournois.
Arnold Palmer.
Avec des John Ram, avec des Jordan Spieth, des Rory McIlroy. Chris, c'est ça la PG. C'est ça, là.
Oui.
Anyway. Parti sur une dérape.
Ben, continue. T'as arrêté ça sec pas mal, là, je trouve.
Ouais, mais je me tente pas de parler. Sérieusement, ça me tente pas de parler des rollbacks. Là. Ça me tente pas. Je connais pas.
Ben, regarde, disons ça.
Il y a une nouvelle pour pas grand-chose. On s'entend que présentement, c'est 2 tournois en 2026. On va arriver à Rome avant. Là,
ouais, mais de toute façon, Nick, soyons. Résumons ça, OK? C'est pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, là. La USGA et le RNA sont arrivés avec un projet pour dire qu'ils voulaient roll back the golf ball pour faire en sorte que ça allait probablement diminuer les drives de 15 à 20 verges. Donc, créer une balle de golf, comme ça existe dans les driving range, là, vous allez avoir des balles qui vont être 70%, 60%, puis c'est fait en sorte justement que plus qu'il y a de vitesse qui rentre dans la balle, plus que ça l'enlève de la distance. Ce qui fait que, mettons, si tu frappes un fer 9, ta distance ne sera pas tant affectée. Mais si tu frappes un fer 4, ben là, tu vas perdre la distance. Mais je vais arrêter ça tout de suite, Nick. Premièrement, il n'y a pas un amateur et ou un professionnel qui est pour. Et deuxièmement, il n'y a pas une compagnie de balles de golf qui va embarquer là-dedans. C'est impossible. Fait que ça s'arrête là. Moi, dans mon livre à moi, regarde, je peux me tromper, là. Mais selon moi, c'est mort dans l'œuf et même c'est mort dans le cul de la poule.
Yes.
Tu vois, on dirait que j'ai ramené ton attention vite demain. J'ai comme,
ouais, le truc de la poule. Ben, c'est ce qu'il faut, là, des fois. Hein.
Mais
on arrivera. On en parlera quand ça sera sérieux.
Moi, je
parce
pense
que
ça ne vaut juste jamais. Non, oublie ça.
Non, parce que là, c'est des propositions de quelque chose qui peut arriver en 2026. Puis là, le swing speed, il y a 10 ans, n'est pas le même swing speed qui est là présentement. Puis le swing speed dans 3 ans, il ne sera pas le même qu'il. Anyway, on en parlera quand on arrivera là.
Ouais, puis de toute façon, Nick, le scoring average, il n'est pas 10 shots en bas de ce qu'il était il y a 30 ans. Là. Est-ce que je chasse, il n'y a personne qui a gagné le Masters à moins 35 à date. Tu sais, puis les fois que les tournois se sont gagnés à moins 20, moins 25, même moins 30, ben c'est parce que la track était facile. C'est pas parce que les gars sont ultra plus talentueux. C'est parce qu'à un moment donné, tu sais.
Aux Players, si samedi n'était pas là, si samedi comptait pas, ça serait fini à moins 10. Si samedi jouait dans les mêmes conditions que jeudi, vendredi, dimanche, c'est moins 10. Ça.
Ouais, puis même là, ouais, puis même là, tu sais, je veux dire, on le voit souvent, mais on parle d'un gars qui a torché le field. Mais je veux dire, on parle de Scotty qui a fini à moins 17. Mais des gars à moins 10 ou mieux, il y en a 4, incluant Scheffler.
Mm-hmm.
Fait que il y a comment qu'il y en avait 70, mettons, ou 72, je pense, qui avaient fait 75 qui ont fait la cote. Fait qu'il y en a 71, Nick, qu'en 4 rondes, ils n'ont pas été capables de jouer mieux que 2.5 en dessous du par en moyenne.
Mm-hmm.
Ils n'ont pas fait mieux que ça. Là. Ah oui, mais ben oui, mais c'est ça. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est pas un problème. Tu sais, c'est qui. C'est le président, le CEO de Titleist, de Acushnet, je pense, qui a sorti. C'est lui qui a la meilleure quote. Ils ont dirait une gang de... Ben, il n'a pas dit ça de même, je vais le résumer à ma manière. Ils ont dirait une gang de suits, une petite gang de suits assis dans une salle qui essayent de trouver... qui ont trouvé une solution à un problème qui n'existe pas. Pas compliqué, là. Eux autres. C'est de même, je le résume.
Les suits. C'est vrai que la gang de suits... Et la cause de beaucoup de problèmes. Ça reste pas mal dans leur bureau et ça va pas parler aux fans.
J'étais content que JT sorte en disant que c'est pas la première fois que les USGA font des décisions très selfish.
Exact. Anyway, comment t'as aimé ta Honda Classic? T'étais là? T'étais sur place?
Ouais, le samedi. J'étais allé là le samedi. Très le fun, comme d'habitude, Nick. Tu sais, c'est sûr, c'était pas le plus gros tournoi de la saison. Tu sais, il n'y avait pas les gros noms, mais pour un gars qui est un amateur de golf comme toi puis moi.
Tu parles d'un gars qui est allé à John Deere Classic l'année passée. Là.
Ah, d'après moi, le field était pire que la John Deere. Je veux pas.
Ah ouais?
Ben, faisons le... J'ai-tu la cédule ici dans. Mettons dans la cédule. Parce que je te jure, tu sais, c'était pas... non, c'était pas Yab, là.
Il y avait quand même Saheed Tigala, il y avait quand même JT Poston.
Je te dis pas qu'il y en avait pas, mais...
Non, mais moi, je te parle de la John Deere.
OK, ouais. Ben, ouais. Comme je te dis, c'était pas le meilleur field, mais de toute façon, c'est pas ça le point. Moi, j'y ai trouvé mon compte. On a eu une super journée. Il faisait super beau. J'étais arrivé là quoi vers midi à peu près. Regarder les meneurs. Entre autres, regarder Chris Kirk frapper des balles un peu avant de partir. Ryan Gerard aussi qui était là. Regarder le dernier groupe s'est lancé. Puis après ça, bon, on s'est promené un peu parce que j'étais là avec le chum Jeff Filion. Et qui était là avec sa blonde... avec Madame Liberté. Et on était aussi avec, moi je ne les connaissais pas, mais on voulait l'avoir peut-être un moment donné. On devrait peut-être le réinviter un moment donné, mais avec André Raymond, qui est co-fondateur et directeur général du club de golf La Tempête à Québec, qui était là avec sa femme aussi. Fait qu'on a eu bien du fun. Puis eux autres, c'est, tu sais, Nick, c'est des maniaques de golf et de terrain de golf. Mais quand je dis terrain, là, c'est tous les détails d'un terrain. Fait qu'on était là, les trois cabochons, à regarder le gazon. Puis là, tu sais, oh, là, ils coupent la pelouse. Tu vois, ils coupent juste dans le landing zone pour que ça soit plus firm demain. Puis, tu sais, fait qu'on était là un peu les trois avec notre maladie mentale. On fitait très bien. Mais non, super journée. C'est
parfait. Parfait.
C'est ça. Puis encore une fois, je suis obligé de te dire que la dernière fois que j'avais été dans un tournoi, c'était le livre. Puis il manquait assurément de divertissement pour la famille. On va dire ça de même. Là. Oui, il y avait des très belles madames en robe, des beaux messieurs en chemise, puis tout ça, des jeunes quand même en masse. Mais ça manque d'activité en dehors du golf pour attirer la famille, tout ça. Pas qu'il n'y avait pas de famille, mais ça manque de sections avec un concours de potting. Puis une autre section avec un concours de lancer le plus rapide de baseball ou de football ou quelque chose du genre, là, des food trucks ou fait que c'est encore un peu la vieille méthode PGA, mais quand t'es un mordu, c'est facile d'apprécier une journée de même. Là. Fait qu'on a vu du bon golf, on a vu des belles shots, on a vu des moins belles shots. On a vu Sung Jae frapper avec un pied dans l'eau au 17. Sa balle qui était restée pluguée là. Fait que, ouais, on a vu une couple de Sung Jae Im. C'était probablement un des tops qui était là. Mieux. En fait, c'était le mieux ranké, je pense. Mais bref.
C'est le tournoi. Tu as parlé d'Akshay Bhatia. C'est le tournoi qu'Akshay, deux fois pendant la ronde, a frappé.
Ouais, c'est
mis
en chess. Ouais, c'est ça. C'est mis en chess pour pas saler son gilet. Ouais.
Mange pas beaucoup de Popeyes, lui.
Non, d'après moi, il est assez. Il est pas fort, ses jujubes et ses desserts, d'après moi.
Non.
Parce qu'il. D'après moi, là.
130?
150, c'est le gros top. Ah ouais, t'as peut-être raison. J'allais dire 150, c'est le gros top. C'est probablement en plus 140, genre. Effectivement. Fait que.
C'est ça. Ça a été un gros finish, un beau finish entre un gars qui a une histoire dans la PGA, un vétéran qui a passé par plusieurs games d'émotions, a failli complètement se retirer de la game à cause de la boisson. Puis t'as des gars comme Eric Cole, Tyler Duncan qui était là, Ben Martin, ça c'est des vétérans. Le Ryan Gerard t'en a parlé, Septic Tank qui était là, qui avait gagné l'année passée. Puis t'avais aussi un Justin Suh qui connaît un excellent stretch. Justin Suh qui était dans la... Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait comme une espèce de top 4 avec Matthew Wolff, Colin Morikawa puis Victor Hovland qui sortaient la même année. Mais Justin Suh était le quatrième. Ça, il a pris un petit peu plus de temps à bloomer. Là. Mais cette année, on le voit vraiment bien performer. Encore une fois, bien performer aux Players en fin de semaine. Puis ouais. Aussi, le retour du Suédois David Lingbert qui avait fini T10 à ce tournoi-là. Avait un share of the lead en fin de semaine aux Players, donc il a fallu qu'il se requalifie au Corn Ferry Tour, si ma mémoire est bonne, l'année passée, pour se requalifier, pour regagner sa carte. Mais là, il est en train d'avoir une belle saison, le chum David Lingmerth.
Ouais, puis il a bûché beaucoup parce que ça faisait quoi? Ça faisait 4-5 ans, je pense, qu'il n'avait plus sa carte. Mais il avait vraiment bien joué au Corn Ferry Tour Finals. Tu te rappelles, il avait gagné un des trois événements du Corn Ferry Tour Finals. C'est de même que, entre autres, le dernier tournoi, ça ne voulait plus rien dire pour lui parce qu'étant donné qu'il avait gagné ça. Là. Mais effectivement, c'est une belle histoire de ce côté-là. Là.
Christian Kirk a failli frapper le Honda Pilote.
Ouais, ça a manqué finir dans le windshield. Ouais, ça, c'était assez spectaculaire.
C'est spécial.
Ouais.
Sinon, le Arnold Palmer de Invitational, on a parlé de Kurt Kitayama, puis The Project, a.k.a. The Project. On va se dire, c'est un autre gars qui était sur le DP World Tour, qui a commencé sa carrière sur le DP World Tour. Je pense une couple de saisons à jouer là. avait des up and down plus ou moins constants sur le circuit. Puis là, en fin de semaine, mais au Arnold Palmer Invitational, c'est fait chauffer, mais un gros bird, une grosse shot au 17. Je me demandais c'est quel trou était le plus tough, le 17 au Honda Classic ou le 17 au Abbey Hill. On me dit que ça dépend des conditions de vent, ce qui paraît. Mais pour moi, ça me l'air. Le 17 à Béhill avait l'air un petit peu plus tough de ce que je vois à la télévision. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est vraiment. Ça dépend tout le temps des conditions puis de où ce qu'ils placent les tees aussi. Mais c'est sûr que si on fait abstraction du fait que c'est une île, le 17 de Béhill est bien plus long habituellement. Là. Il se joue pas mal plus long. Puis le terrain se joue pas mal plus dur aussi. Tu sais, c'est quand? C'est le samedi que, étant donné qu'il y avait eu de la pluie, tu sais, c'était assez réceptif. Là. D'ailleurs, on a eu l'autre trou d'un coup. Puis est-ce que la pin, en plus, était en avant? Fait que les gars étaient capables de faire baiter la balle dans le milieu du verre avec un peu de spin. Tu sais, le spin n'était pas... tu sais, vous savez comment ça marche avec des verres qui sont très rapides. C'est pas que la balle spin moins, c'est que justement, il n'y a pas de... C'est pas capable de prendre rien, c'est comme trop dur, c'est comme trop granuleux, fait que ça grippe pas là, un peu sur le green. Mais ça dépend vraiment des conditions, j'ai le goût de te dire, Nick. Là. Mais juste pour te dire sur David Lingmerth, il est rendu à 1,5 million cette année d'earnings, 52e à la Coupe FedEx. C'est quand même un gars qui avait, il y a 1,5 cette année, mais avant cette année, avait 10,8 millions de career earnings et avait déjà gagné le Memorial. Donc, effectivement, il avait seulement gagné le Memorial. C'est le seul tournoi qu'il avait gagné. Mais c'est une belle histoire, c'est un beau retour. Je pense qu'on va le revoir dans le cercle, peut-être pas des meneurs, là, mais on va le revoir à quelque part. Je pense qu'il va être capable de vraiment aller chercher peut-être d'autres tournois. Mais c'est sûr, puis c'est pour ça que je voulais juste te faire une petite aparté sur lui. C'est un gars de la Suède, mais c'est un gars qui joue et pratique à Pontevedra Beach sur TPC Sawgrass. C'est le genre d'information qui est tout le temps utile pour un DraftKings. Il y en avait une coupe comme ça, mais ça peut être aussi traite parce que regarde Billy Horschel, un track record merdique aux players, puis pourtant, c'est là qu'il pratique lui aussi, fait que c'est toujours un peu spécial, mais bon. Voilà. Puis David Lingmerth, sa superstition, c'est qu'il ne joue jamais avec une balle numéro 2 en compétition.
Moi non plus.
Voilà. Moi, je joue avec des 66, 69. J'achète mes balles usagées, fait que des fois, j'ai des numéros un peu spéciaux.
Comment tu peux voir les numéros qu'il va avoir dans la boîte?
Je ne peux pas. Ah, tu parles dans son cas à lui? Ah, lui, d'après
moi,
il choisit
ses numéros. Comment tu fais pour... Tu te dis, moi, je veux jouer avec des 66 et des 69.
Non, c'est que quand c'est des numéros qui sont hauts comme ça, c'est souvent des balles qui ont été commandées directement custom chez Titleist avec un logo, ou même juste pas de logo, mais juste un nom ou un numéro. Mais moi, j'achète... tu sais, c'est un truc de cheap, là. Tu sais, une douzaine, là, je sais pas, au Canada, une douzaine de balles Pro V1, ça coûte à peu près entre quoi 50 et 60 $, mettons. Puis moi, j'adore ça, jouer avec des bonnes balles, mais je suis un cheap. Fait que j'achète des ce qu'ils appellent des near mint. Donc, la condition presque mint, là, presque parfaite. Souvent, c'est catégorisé 5A. Fait que la balle est pas mal neuve, là, mais elle coûte 1,25 la balle, Nick. Fait que je te donne le truc, si tu veux.
Ouais. C'est des trucs pour sauver sur la salle de bain?
Oui, mais je suis pas sûr que tu vas les aimer.
La faire toi-même?
C'est un bon truc, ça.
Ouais.
Ou d'engager quelqu'un qui va te la faire à 1000$ par jour, puis ça te coûtera pas le même prix, mais ça...
Ouais, oui, on va l'appeler.
Un autre débat, ça.
Sinon, si on finit rapidement sur le Arnold Palmer Invitational... Je sais pas si tu as vu pendant le tournoi, il y avait un amateur qui s'est glissé dans le top 10, top 15, pendant que tu me bailles dans la face.
Non, je voulais manger mon micro.
OK. Il s'est glissé dans le top 10, top 15. Je pense qu'il était top 10 samedi ou dimanche. Il a fini avec 73-73. Mais ce Suédois du nom de Ludvig Åberg, est-ce que tu as vu ça?
Non, j'ai pas vu ça.
Non? Bon.
J'ai pas payé attention assez. Ça a l'air.
OK. Ben, alors, il a fini finalement 24e. Puis j'ai pas fait de recherche. Je me suis dit que j'allais faire des recherches, mais j'ai complètement oublié. Mais d'après moi, le Arnold Palmer Invitational donne une place au numéro 1 mondial amateur parce que c'est ce que Ludvig Åberg est présentement. Il est premier au monde dans les rangs amateurs.
Je pensais que c'était Gordon Sargent le premier.
Mais non, ce n'est pas Gordon Sargent. C'est lui. Okay. Gordon Sargent avait gagné le tournoi l'année passée. Il est numéro 2. Gordon Sargent. Ouais.
OK. Okay.
Puis, c'était Gordon Sargent avait gagné le... C'est quoi qu'il avait gagné? C'était-tu un Greaser Sargent numéro 1 de Hyatt? NCAA D1 Championship. Il a gagné le NCAA Championship. Puis je pense que Greaser avait gagné le Amateur Championship, si ma mémoire, contre Sam Bennett. Si ma mémoire est bonne.
C'est drôle parce que Data Golf Amateur Ranking, eux autres, ils l'ont au premier rang. Mais effectivement, le World Amateur Golf Ranking, il est au deuxième rang.
Ouais, c'est
ça. Je sais pas comment ils le calculent, eux autres. Là, ils doivent avoir des infos.
Greaser avait gagné le Western Amateur Championship. Puis là, j'essaie de trouver. Je pense que c'est Sam Bennett qui avait gagné le...
Oui, il avait gagné le Amateur Championship.
Le US Amateur Championship.
Ouais, US Amateur, ouais. Ouais, exact. Ouais. Exact.
Vis-à-vis Ben Carr en match play. Non, Ben Carr, non. Pas Ben
oui,
Carr.
Oui, exact. Ouais, oui, c'est ça, je pense que oui.
Ouais.
Je pense que oui, je l'avais écouté. C'était à Peacock. Et j'avais écouté. Ouais, ouais, j'avais écouté la finale.
OK.
Ou en tout cas la demi-finale, peut-être, je sais pas.
Sinon, Ludvig Åberg est numéro 1. Gordon Sargent est numéro 2. Puis je sais pas si tu viens de l'Américain Michael Thorbjørnsen.
Oui, très bien. Oui, oui.
Bon, numéro 3 présentement. Donc, c'est un gars de Texas Tech.
Ouais, c'est Ludwig. Ce que je vois, puis. Je vois que dans le top 10, tu as toujours le bon vieux Stuart Agastad.
Ouais, ouais.
Quel phénomène incroyable. Comment ce gars-là peut rester là? Il est genre dans trentaine. Ouais. Il me semble qu'il est dans trentaine.
Veux-tu savoir si son école secondaire à Ludvig?
C'est quoi?
C'est le Riksidrott Gymnasium de Helsingborg.
Ah, ben oui. Oui, oui.
Bien c'est connu. Logique, ouais. Anyway, fait que c'est ça. Puis pendant ce temps-là, il y a eu un tournoi au Porto Rico Open. Le Porto Rico Open, tu avais parlé d'Akshay Bhatia, avait fini deuxième. C'est le Colombien et le futur membre de Live Golf, Nico Echavarria. Echavarria.
Voilà.
Et avant qu'on parle du Players. Il y a eu une couple de tournois de DP Tour qui ont eu lieu pendant ces tournois-là. Et je sais pas si tu t'en souviens, on en a parlé un petit peu. Là. Mais le chum du British Open, le gars qui a rallié les foules avec son énergie, le chum que son caddie a déjà porté du Wolf Golf, et j'ai nommé Marcel Siem, a gagné le Hero Indian Open. Pendant que le Honda Classic jouait. Puis, en fin de semaine, c'était le Magical. Je sais que c'est un de tes tournois favoris. Pendant la COVID, il y avait deux tournois au Kenya. Là, il y en a un. Mais c'était le Magical Kenya Open. Et c'est le vétéran espagnol Jorge Campillo qui a gagné.
Oui!
Un!
Ouais. On les aime bien. Oui. Très bon. Très bon, non, effectivement.
Sinon, ton player.
Regardez comment Stuart. Ben, je veux dire, c'est le fun, Nick, parce que c'est assurément un des plus beaux terrains de golf qui joue de l'année, là. Tu sais, je veux dire, les images, la verdure,
l'esthétique.
Le stretch pour finir aussi, 16, 17, 18. Plusieurs trous de golf incroyables. Gros test de golf pour les gars, surtout quand les conditions sont difficiles. Mais je suis obligé de te dire que c'est pas le même attrait. Puis, c'est plate à dire, mais si je suis un... Puis je pense qu'on en avait déjà parlé, Nick, quand Liv avait commencé. Mais si je suis les tournois majeurs, je suis plus excité que jamais, là. Parce que ça va être les seuls tournois où tu vas avoir vraiment la crème de la crème. Avant ça, tu pouvais dire que, mettons, le Scottish Open ou le Players, ou ben le Players, c'était le meilleur exemple, c'était là où vraiment le plus gros field du golf était. Peu importe, tu jouais sur le DP World Tour, tu jouais sur le PGA Tour, peu importe ce que tu jouais, tu sais, c'était quoi? C'était souvent le top 50 mondial à 98% était là, ou à peu près souvent. Là, cette année, ben, t'as pas Dustin Johnson, qui, oui, je sais, est rendu comme 62e au monde, mais ça n'a pas rapport, là, c'est parce qu'il fait pas de points, là. Fait que, tu sais, t'as pas de Dustin Johnson, t'as pas de Cam Smith, t'as pas de Harold Varner, t'as pas de Matt Wolf, t'as pas de Reed, autant que je l'aime pas, ça reste un des bons joueurs au monde. Tu sais, fait qu'il manque beaucoup de joueurs qui sont les meilleurs au monde. Je pense que le champion défendant, c'était le pire du pire, là, parce que, je veux dire, le gars gagnant est passé, là. Je comprends que c'est géré par le PGA Tour, c'est le tournoi du PGA Tour. Mais espérons que dans un futur, les ligues vont cohabiter. Puis c'est pour ça un peu que je parlais du statement de Phil au début du podcast, Nick, parce que je pense que Phil a la bonne approche. Je suis pas sûr que ça il va être accueilli à bras ouverts par le PGA Tour, là. Mais je pense que c'est la bonne approche de leur côté. Mais donc, au-delà de ça, écoute, je suis un mordu, Nick. Fait que excellent tournoi. J'avais un DraftKings qui a de l'allure. Si mes gars n'avaient pas chié ça dans le week-end, j'avais juste un gars qui avait manqué la cote, c'était Keegan Bradley. Lui qui s'était claqué un 8. Avait bien parti, moins 2 après la première ronde. Puis a joué plus 6 en deuxième ronde. S'était claqué un 8 au 18e. Et avait fait aussi un double sur le front, qui était son deuxième 9, là, en fait. Mais sinon, c'est ça, j'étais bien parti. Mais disons que Sahith Tigala, que j'avais, qui a, durant le week-end, est allé d'un 78-75, fini avant-dernier. Ça l'a pas aidé vraiment mon DraftKings. J'avais Justin Thomas, donc ça non plus, ça l'a pas vraiment aidé mon DraftKings. Mais j'avais quand même vu juste avec quelques noms, là, qui ça a été un petit peu plus difficile le week-end aussi, mais j'avais Victor Hovland dans mon DraftKings. Je pense que Hovland démontre de plus en plus qu'il va faire partie des discussions à chaque tournoi, là. Et sinon, j'avais Sung J.M. aussi qui est allé d'un 64 le samedi pour se mettre dans le mix. A connu une mauvaise séquence le dimanche. Je pense qu'il a joué quoi les 6 derniers trous. Je pense qu'il a joué ça en plus 4 ou plus 2. Laisse-moi aller voir 2 secondes. Ouais, c'est ça. Du 13 au 18, donc ça fait bien 6 trous. A 4 bogeys, un birdie, donc plus 3 pour finir sa ronde. Ça lui a coûté quelques millions de dollars, quand même fini T6. Mais si c'était pas de ça, il aurait pu finir probablement juste après, probablement solo third derrière Tyrrell Hatton. J'avais Ricky Fowler aussi, Nick. Ricky est de retour, on le voit, il swing bien. Des bonnes stats, s'il est capable de tout mettre ensemble, je pense que je ne serais pas surpris qu'on puisse voir Ricky peut-être gagner sur le PGA Tour cette année à nouveau. Tu sais, aux Players, était dans toutes les... je te dirais, était dans toutes les bonnes... Tout le top pour toutes les catégories. Sa catégorie la plus difficile, ça a été peut-être autour des verts. Mais encore là, il était quand même dans le top 60 ou à peu près. Donc, s'il peut rajouter une petite coche de plus à ses stats à ce niveau-là, je pense qu'on pourrait voir Ricky Fowler gagner cette année. Donc, ça ressemble pas mal à ça. De ton côté, Nick, qu'est-ce que tu as à souligner?
Moi, j'en ai parlé un peu. Là. J'avais parlé de Min Woo-Li, qui a été, moi, d'après moi, la Shining Star. Le Team Canada a bien performé jusqu'au week-end. On avait Adam Svensson qui était dans les leaders après la deuxième ronde. Adam Adwin aussi était lourd. Et là, Taylor Penrith a eu une séquence assez difficile avec un 72-80 en fin de semaine. Ça, c'est côté canadien. Mon DraftKings ressemblait un petit peu au tien. J'avais Ricky Fowler, j'avais Victor Hovland, j'avais un des gars qui a eu beaucoup de highlights sur lui, Keith Mitchell, avec, avec son, sa drive at the buzzer,
oui.
qui était exquisite. J'avais aussi Max Homa, donc un T3, T6, T13, T35, et j'avais Justin Thomas, avec un, je pense que c'est Webb Simpson que j'avais. Pour compléter le DraftKings, mais bon, $0.
Moi non plus, puis un autre gars que j'avais que je t'ai pas mentionné, mais que a connu, je veux dire, il est de retour cette année avec Ricky, Jason Day, qui connaît un excellent début de saison, qui est en santé, mais a connu... une semaine un peu anormale off the tee, qui est un gars qui a un swing très stable. Puis on le sait, là, le TPC Sawgrass, c'est pas facile off the tee, ça te prend toutes les shots, mais a perdu quand même pas mal de shots sur le field off the tee. Donc, mais à surveiller quand même pour Jason, mais il a juste frappé 46% des fairways, donc c'est sûr que ça te pénalise quand même pas mal à Sawgrass aussi, surtout si, comme on disait, si on fait abstraction du samedi, là, le terrain jouait quand même assez dur, du moins au niveau des verts. Les allées, ça semblait assez mou. Là. Mais à part le samedi, les verts, entre autres à cause du vent, le jeudi, vendredi, là, les verts jouaient quand même assez difficile. Fast and firm, comme ils disent,
puis,
ben, surtout au niveau des greens.
Ouais, puis je comprends l'argumentaire que c'est pas le player, ça devrait être tous les meilleurs joueurs au monde. Je suis 100% d'accord avec ça. Ça donnerait un meilleur show. D'un autre côté, le Players est reconnu comme étant un tournoi qui, selon la température, va faire shiner une couple de nouvelles stars. On l'a vu en 2021, quand Cam Smith a gagné. Je ne lirai pas toute la liste, mais 5 joueurs dans le top 10 sont maintenant à livre. T'as Henry Van Lairie, ouais. Paul Casey, ben évidemment Cam Smith. T'as aussi Harold Varner III. Dustin Johnson aussi avait fini dans le top 10. Si je regarde en 2019, c'était quand même 2021, non. Donc 2022, c'est l'année que je viens de parler. On est en 2023, set me straight. 2021, c'est assez normal. 2020, on se souviendra qu'on a arrêté le tournoi. C'est là que la COVID avait officiellement été. C'était Hideki Matsuyama qui leadait le field versus Christian Bezuidenhout était là. C'est la première fois qu'on voyait
Bezuidenhout
dans le top. Donc, ce tournoi-là avait quand été cancellé. Mais en 2019, ça m'a rappelé des bons souvenirs. Rory avait gagné à moins 16, mais dans le top 5, mais t'avais Jim Furyk, Jonathan Vegas, Eddie Pepperell. Tu te souviens-tu d'Eddie Pepperell aux Players?
Oui.
C'était. Oui. Et t'avais Brent Snedeker. Donc, quand même un tournoi qui. Oui, effectivement, il manquait des joueurs, il manquait des Neiman, il manquait des Smith, il manquait des Mito Pereira. Je vais te le donner à 100%, mais c'est quand même un tournoi qui, normalement, nous donne un leaderboard assez spécial. Puis là, on l'a encore vu en fin de semaine, où Rory a manqué la cote. Tom Hoge a joué 62 en fin de semaine. Justin Suh était là. David Lingmert a été... faisait Cam Davis, Min Woo-Li. Ben, j'ai parlé des Canadiens, Adam Svensson, Adam Adwin. Danny McCarthy a été là.
Mais tu sais, Nick, je dis ça surtout parce que c'était comme, on appelait ça le cinquième majeur. Ça l'enlève pas que c'est un excellent tournoi de golf. T'sais, c'est comme le Arnold Palmer, c'est comme d'autres. C'est juste qu'il y avait une coche de plus que là, je pense oui. qu'il n'y aura juste pas. Tu comprends?
Non, ça va être elevated events.
Ouais, ben exact. Ça va être... Mais même avant que ce soit un elevated event, à Riviera, tu avais bien des gars qui étaient là. Puis à Arnold Palmer, tu avais bien des gars qui étaient là aussi. T'sais. Fait que je pense que ça va juste être un autre de plus, mais ça, on pourra pas dire que, OK, oui, ça va être vraiment. Avec les meilleurs, là, tu sais.
Ça a effectivement perdu son lustre, je te le donne à 100%. Par contre, qu'est-ce qu'il va garder, puis faire en sorte que ce tournoi-là va rester mythique, puis aussi populaire, ben, c'est la track, c'est le 17e trou. Puis on l'a vu, c'est un peu... c'est un trou assez spécial, tu sais, tu mets ça sur une île, puis c'est... Mais d'un autre côté, là, ça nous a donné... un Christy de bon show à la fin, les gars qui crissent ça dans l'eau. T'as eu trois trous d'un coup en trois jours. D'où dépendant où est la pin, là, ça peut être quand même assez le fun. Puis ça peut scraper une victoire. Tu peux arriver au 17e, avoir 5-6 shots d'avance. Puis la crisser dans l'eau deux fois, puis c'est terminé. Là. C'est très facile de la crisser dans l'eau, surtout avec la pin. Où aller le dimanche, en arrière du bunker.
Ouais.
Ouais. C'est qui a fait le tour d'un coup là, dimanche? C'était n'importe quoi comme shot, là.
C'est pas Smootherman?
Non, c'est pas Smootherman.
Ben oui, Aaron Ryan a fait un le...
samedi.
Alex Smootherman.
Aiden Buckley.
Ouais.
Le... vendredi.
Mais ça a fait un bon, là.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, d'abord. Je me rappelle pas.
Alex Smalley.
Smalley, c'est ça, oui. Je savais oui. que c'était un Alex.
Ouais.
C'est ça. Oui, effectivement.
Anyway, fait que tout ça s'étant dit, on commence à être fatigué, on avait un ami. Je pense que ça va quand même rester un des tournois les plus populaires et les plus importants juste à cause de la track. Donc, c'est ça. C'est mon two cents.
D'accord.
On s'en va-tu au Snake Pit?
Ouais, on fait ça vite. Dernière manche du Florida Swing. On finit ça sur la côte ouest de la Floride, juste au nord-ouest de Tampa Bay, à Palm Harbor. Non, c'est pas prévu d'y aller cette année. C'est quand même une bonne ride. Puis ça fait un petit bout que j'ai pas joué moi-même parce que j'avais pas de driver. Et là, j'ai su que j'allais recevoir mon nouveau driver probablement d'ici la fin de la semaine. Donc, je vais probablement en profiter pour aller l'essayer. Et aussi, d'ailleurs, Nick, parce que tu sais qu'au podcast, on essaye de tester le matériel et l'équipement pour donner à nos auditeurs vraiment un edge.
Surtout toi.
J'ai reçu une pub via Instagram de Arcos Golf.
Oh.
Je sais pas si tu as vu les Arcos, c'est si tu le prononces en français là. Arcos Golf, c'est les sensors que tu peux mettre dans le bout de tes bâtons ou encore tu peux acheter des grips que les sensors sont déjà dedans là. Et ça c'est quand c'est pairé avec leur application mobile. Ça track automatiquement tous tes coups. Fait que t'es vraiment capable de savoir te frapper à quelle distance. Puis là, t'as un paquet de insights. Tu peux comparer ta game versus, mettons, un pro avec tel handicap. Fait que t'es capable de voir où est-ce que tu perds des... T'sais, où est-ce que tu gagnes des strokes, où est-ce que tu perds des strokes. T'as un genre de AI un peu capoté qui fait aussi en sorte que il te donne les conditions météo. Ce qui fait que, mettons, par exemple, OK, on va dire, OK, tu avais le vent en face de 8 000 à l'heure, puis tu montais d'à peu près 3 pieds, puis tu as frappé ton fer 7 172. Fait que ça va rentrer la donnée comme étant, OK, il a frappé son fer 7 172, mais il y avait le vent en face de 8 000 à l'heure. Fait que ça va comme te donner. Fait que là, les prochaines fois, plus que tu en frappes, évidemment, plus que ça apprend. C'est ça Le AI, c'est de la régression linéaire. Là. Tu lui donnes du data, puis il apprend. Là. Puis là, ben, ça va te dire en sorte que les prochaines shots, tu vas arriver sur un terrain que tu ne connais pas. OK, le vent est à 8. Tu as à peu près tant de verges. Enlève tant de verges pour le vent. C'est à peu près ça que tu devrais frapper. Puis la pub que j'ai eue sur Instagram, c'est une pub pour des free smart sensors. Donc, j'ai un free trial.
C'est gratis. Je me demandais, parce que moi, j'ai une salle de bain à faire. Je me suis dit que j'écoute aller. Je dis, oh, genre on était rendu un autre 1000$.
Non, non, ben c'est que les sensors, si tu achètes le kit troisième génération, là, c'est le kit que j'ai reçu, là. Si tu les achètes demain matin sur le site, je pense que c'est 200$ US. Puis il m'a envoyé ça gratis avec 45 jours de free trial.
Là, ça vient donc, avec un membership de 20$ par mois?
Ouais, là, c'est gratis pour 45 jours. Puis après ça, je pense que c'est 10$ par mois. Fait que je vais l'essayer 45 jours, puis je vais vous donner des nouvelles, les amis. Mais mon aparté
c'est de l'intelligence artificielle, c'est ça? Ça vient de venir du Québec?
C'est des smart sensors. T'as un peu le...
Parce qu'on est quand même la quand même
capitale mondiale.
La plaque tôt. Oui. L'intelligence artificielle. Ouais. Faut pas oublier, là.
Ça dit pas d'où est-ce que ça vient. Fait que j'imagine... Ah oui, t'as un peu...
About. C'est Montréal.
Probablement. Si ça le dit pas, c'est parce que ça doit être... tu sais, s'ils le disent pas. Ah, tu vois, le CEO co-founder MBA de Yale. Ouais. Yale. En fait, est-ce que c'est Yale? Parce que c'est peut-être l'université Yale. Peut-être que c'est à quelque part au Québec, puis je suis pas au courant. Là. Non, c'est ça, Yale, ouais. Mais pour revenir à ce que je disais, pour finir mon aparté, effectivement, on se dirige vers le Valspar en fin de semaine. Dernière manche du Florida Swing. Puis là, ben on est pas loin. Là. On est à 3 semaines... du Masters. Donc, on a un bon stretch qui s'en vient. On a des gars aussi, Nick, qu'il faut surveiller là, au niveau du official World Golf Ranking. Tu sais, tu as le fameux top 60. Là. Je pense que c'est le top. Je pense que c'est après la semaine prochaine. Donc, après. Parce que là, la cédule, vous avez le Valspar cette semaine. Après ça, on a un opposite field event en même temps que le match play. Qui est Punta Cana en même temps que le WGC. Puis après le WGC, c'est là que le fameux top 60 est gelé, donc le top 60 du classement mondial. Donc on a une couple de gars quand même qui vont se battre un peu. Entre autres, je pense, Nick, à Taylor Montgomery, qui lui aurait probablement été dans le top 60 mondial ou le top 50 mondial si ce n'était pas de son finish complètement horrible. Au Masters, je sais pas si t'as pogné son finish là.
Au Masters?
Pas au Masters, excuse, au Players. Je sais pas, j'ai parlé tantôt du finish à Sung Jae-im. Taylor Montgomery, c'est à se déchirer la chemise là. Il a fini, je pense, puis en millions de dollars aussi là. Il y a pas mal de salles de bain dans ce qu'il a perdu. Je fais juste t'en parler de même là. A fini à 76.
Ça dépend c'est où t'as fait.
Mais juste pour te dire, Nick, il était...
C'est une salle de main pour vous, deux salles de main pour vous. Hein.
Ouais, c'est ça. Ouais. A fini sa ronde à 76. A fini moins 3 overall. Après le 14e trou, il était moins 10. Donc, il avait une chance de finir top 5 pas mal, même quasiment top 2, là. Et a fini au 15, a fait bogey, a fait double au 16 sans aucun coup de pénalité, quadruple au 17, puis a fini ça avec un par. Donc Taylor Montgomery, si je ne me trompe pas, je pense qu'il est juste en dehors. Est-ce que je l'ai ici? Attends un peu, je me semble que je l'avais. Oui, c'est ça, il est 56e au monde présentement. Taylor Montgomery, selon le site du OWGR. Ça, c'est en date du 12 mars, fait que ça doit être... Mais s'il avait fini comme T2 comme en date du top 5 ou du top 10, aurait été facilement dans le top 50. Là.
Mais là, il y a de la place. Ouais. Il va avoir de la place un peu. T'as Guillermo Mito Pereira, t'as Harold Varner, t'as t'as Taylor Gooch qui sont 49, 50 et 51, qui accumuleront pas de points pendant les prochaines semaines. Fait que là, il y a de la place un petit peu, là.
Ouais, sauf que c'est pas rolling un an. Fait que s'ils en ont fait l'année passée à pareille date, tu sais, dans le sens que s'ils en perdent, oui, mais s'ils en... Je sais pas comment que le calcul se fait. Je sais que ça avait été changé un peu. Mais un autre gars qui est là, Nick, puis qui pourrait avoir des bonnes chances de se classer pour le Masters, c'est le chum Ricky Fowler. Ça, il prend une bonne performance au WGC, mais il est 59e présentement. Donc, s'il va être dans ce fameux top 50, ça pourrait peut-être se produire pour le chum Ricky. Mais on n'est pas loin, on s'approche du Masters, Nick, tranquillement, pas vite. Donc, c'était un peu le point que je voulais faire. Puis, en fin de semaine, ben c'est sûr qu'on surveille évidemment Sam Burns, lui qui va Villevanier. Pour le gars de Villevanier, oui, avec la moustache. Lui, il va pour évidemment un three-peat. Ça fait 2 ans en ligne qu'il gagne ce tournoi-là. C'est une super track de golf en passant, là. Je suis content de voir qu'il y a des gars qui... quand même pas mal de gars avec des gros noms qui vont être présents malgré le fait que c'est quand même un bon stretch là, qu'ils jouent eux autres. Là. Mais le gars de Villevanier qui va essayer d'aller défendre son titre. Ensuite de ça, t'as Justin Thomas qui va être là. T'as Jordan Spieth qui va être là. Tommy Fleetwood, Nick, qui pourrait sneaker peut-être une victoire finalement. Là. Il est en bonne forme jusqu'à date, le chum Tommy. Donc, on va surveiller ça. Danny McCarthy aussi, qui a toujours très, très bien joué à ce tournoi-là. Puis, on a mentionné plein d'autres noms. Là, on les nommera pas, mais... Oh, attends une minute. C'est un peu flou, mais... Ah, t'as Danny McCarthy, t'as Pearson Coody, t'as Adam Adwin, ancien champion, Davis Riley, Brandon Wu et Austin Smotherman. Ou Smotherman.
Smotherman,
ouais, probablement. Il n'y a pas de O, il n'y a pas de double O, en fait. C'est un,
Austin Smotherman qui est... Et on se souvient, une couple d'années, elle avait fini 25e. On se souvient de l'histoire de Taylor Montgomery.
Oui.
Qui avait fini Mr. 26.
Ouais,
bon, ouais, le gars qui avait fini 25e dans le ranking de la saison, c'était Austin Smotherman. C'est le dernier à s'avoir qualifié.
Fait qu'il se retrouve finalement.
Ouais.
Ah, ben c'est très bon. Non, c'est un bon line-up, Nick. J'ai hâte de voir. Tu sais, le Valspar Copperhead Course at Innisbrook Resort. C'est un par 71. Ouais, 5 par 3. Donc, pour 5 par 3, il y a quand même 4 par 5. Là, fait que c'est quand même assez spécial aussi parce que tu es en Floride où ce que normalement c'est très plat. Puis tu vas marcher le terrain, puis tu montes, tu fais rien que monter et descendre. On a beaucoup de côtes. Donc, c'est quand même un spot très très le fun. Beaucoup justement, c'est ça, de changement d'élévation et tout ça. C'est un terrain très difficile. Donc, scoring average, là, on parle tout juste en dessous du par. Et le fameux snake pit, comme tu le dis, Nick, c'est un stretch de golf très, très tough. Je pense que l'année passée, de mémoire, ça s'est joué comme .15 shot au-dessus du par. Donc, vraiment un gros tournoi qui s'en vient. Je pense qu'on s'attend quand même à une bonne brise aussi. Donc, ça devrait venir ajouter un peu d'action. Mais super belle température en perspective. Surveillez les ball strikers. C'est vraiment un terrain de ball striker. Des verres sont assez petits. Faut garder la balle. Faut garder la balle dans le parc. Oui, dans le fairway, là.
28 verges de moyenne des fairways.
Oui, c'est ça. Fait que faut que tu gardes la balle dans le parc, là. Mais une fois que ça c'est dit, les greens sont assez petits, donc faut que tu gardes ça. Faut que tu mettes ça sur la pizza. Tu sais, c'est ça. Avec des bonnes places ou manquées et tout ça. Mais avec des verres ultra rapides, là, on parle de 12,5. Rough quand même assez difficile, mais 7340 verges. Donc, faut quand même que tu sois capable de t'approcher la balle un peu. Surtout qu'il y a beaucoup de par 4, entre autres, qui sont longs et qui montent. Le 18, c'en est un, là, qui est quand même pas de la tarte. Là. C'est que tout ce qui monte redescend. Là, fait que tu as des trous plus faciles parce que tu redescends, mais plusieurs par 4 qui sont en montant, qui sont des trous assez difficiles avec des petits verres, des pins bien placés. Donc, on devrait avoir un bon tournoi. Puis tranquillement, pas vite, Nick, ben on s'en va vers le Masters. Là. Fait que ça ressemble pas mal à ça de mon côté.
Des petites la neige commence à fondre ici.
Oh, fait que tu vas sortir ton va sortir ton stock bientôt.
Ouais, le filet, on va l'aligner bien comme il faut en avant, juste en face du frigidaire, là, dans le garage.
Ouais, pour être sûr de percer le filet puis de faire une poc sur le frigo.
Mm-hmm.
C'est excellent, ça. Très bon. Très bon. Non, ben, c'est ça. Non, moi, j'ai pas ce problème-là. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous? Fait que c'est ça.
Tu parlais de salle de bain, mais en a une heure après ça? Ouais.
Non, ça va, je vais aller me coucher après. Je vais aller me coucher, j'ai... Ouais. Toi aussi, je pense.
Oh oui, on est dit.
Ouais, je pense que oui. Hein. On est correct, mais c'était bien le fun. Puis écoute, Nick, si on est capable, les deux, on essaiera peut-être de se reparler, justement, avant le Masters, se faire une petite édition spéciale Masters, justement, parce que c'est le premier tournoi majeur de la saison. Et c'est mon préféré.
Là où tout a commencé entre toi et moi.
Oui. Avec la fameuse prédiction de la victoire de Tiger Woods. Et comme on dit en anglais, the rest is history. Donc voilà.
2019.
Oui, voilà. Tiger qui devrait être là, by the way, a pas joué le Players, mais on nous a signalé qu'il est allé jouer Augusta National. Il fallait faire un petit scouting trip. Donc on va voir comment ça se passe. Mais on le sait, Nick était revenu l'année passée au Masters. Contre toute attente, avait fait la cote, avait même joué quand même bien. Donc maintenant qu'on l'a vu jouer à Riviera, on sait qu'il est capable de bien frapper la balle. Il y a une année de plus de convalescence ou de rehab. Est-ce que Tiger pourrait encore être dans mon DraftKings cette année au Masters pour faire la cote? Ça se peut que oui. Ça se peut que oui. Ça se peut que oui. Un petit top 30 pour Tiger au Masters cette année? C'est très possible. C'est très possible. Ouais.
Ça, c'est, genre c'est le seul et unique joueur que le monde se lève le samedi matin à 7h30 pour aller le voir jouer.
Ouais, ben là, c'est ce qu'on appelle être l'aiguille. Donc, voilà. C'est, malheureusement, il n'y en a pas quatre de même, il y en a un. Fait que voulez-vous, c'est comme ça. Mais donc, sur ce, on va essayer, Nick, de se faire un petit podcast. Je sais que c'est au début avril, là, fait que si on est capable, la semaine du 1er avril ou quelque chose du genre, on essaiera de se timer pour se faire un petit podcast en prévision du Masters. Sinon, ben, merci d'avoir été à l'écoute, tout le monde. Nick, merci d'avoir été là. Puis nous autres, ben, on se souhaite une excellente semaine de golf et un quelques semaines de golf assez intéressant qui va nous amener justement jusqu'au Masters. Donc, merci encore une fois, Nick. Et on se dit à la prochaine. Bye-bye!
Salut!